RFI 19h30, ici à Paris, l'heure est au débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et un mot est au cœur de notre débat ce soir, le fédéralisme. La question se pose depuis l'origine du projet européen et cette question revient en force à l'approche des élections de juin prochain. La voici, cette question, c'est la question de notre débat ce soir. Est-ce que l'Europe doit être plus fédérale? On en parle alors qu'aujourd'hui, on célèbre les 20 ans de l'intégration de 10 nouveaux pays dans l'Union européenne. Aujourd'hui, ils sont 9 à frapper à la porte de l'Union européenne. Est-ce que l'élargissement nuit au fédéralisme? Une Europe plus forte est-elle une Europe fédérale? Et comment parvenir à une Europe fédérale? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, d'abord à mes côtés en studio, Sylvain Kahn, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à Sciences Po, chercheur spécialiste de l'Europe au Centre d'Histoire de Sciences Po, auteur du livre « L'Europe face à l'Ukraine ». Nos deux autres invités sont en ligne avec nous ce soir. Bonsoir, David Kella.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, membre des économistes atterrés, économiste à l'université d'Angers, et je vais citer votre ouvrage « Penser l'alternative ». Bonsoir Georgina Wright.
Bonsoir.
Notre troisième invitée ce soir en ligne également, directrice adjointe des études internationales à l'Institut Montaigne. Merci à vous trois d'abord d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Et pour commencer, parce que pour certains c'est un gros mot, en tout cas difficile à cerner, est-ce qu'on peut définir ce dont on parle ce soir? Le fédéralisme. Sylvain Kahn, comment est-ce que vous définiriez le fédéralisme?
Le fédéralisme, je le définirais... Bon, il y a Olivier Beau qui est sans doute le spécialiste le plus connu sur ces questions en France. Je pense qu'on peut définir le fédéralisme comme un système politique dans lequel la souveraineté n'est pas concentrée à un seul niveau, à une seule échelle, mais est en fait partagé entre des acteurs politiques et des décideurs et des niveaux de la société qui se retrouvent à plusieurs échelles. Voilà. Donc, en général, on considère que dans un État fédéral, l'État, concentre les prérogatives et les pouvoirs qu'on appelle traditionnellement régaliens, les affaires étrangères, la monnaie, la police, la justice... et puis que ce qu'on appelle les États fédérés, ouais, qui peuvent être les États aux États-Unis, les lenders...
Ouais, c'est ça, parce que les modèles de fédéralisme, les États-Unis, les lenders, alors, c'est l'Allemagne, le Canada...
Le Canada, l'Indonésie, l'Inde, le Mexique est un pays fédéral. Bon, il y a beaucoup de pays fédéraux dans le monde, la Suisse, évidemment. Voilà, donc il y a un partage, pour le dire peut-être de manière encore plus schématique, il y a un partage de l'exercice du pouvoir entre des autorités que en France, on appellerait locales, mais qui évidemment sont, ouais, des États locaux avec un pouvoir bien plus important que les régions françaises, par exemple. Un partage donc entre les autorités qu'on peut appeler locales ou le niveau local et le pouvoir qu'on peut appeler étatique, ouais, ou national. Voilà comment je définirais.
Pour l'Europe, le fédéralisme, ça veut dire effacement des nations, des États membres?
Alors justement, non. Voilà. C'est pour ça que moi, je fais partie des profs et des chercheurs qui considèrent que le terme de fédéralisme ou de fédéral, quand bien même il est utile pour comprendre comment fonctionne l'Europe, n'est pas forcément un mot à utiliser parce que finalement, il a été un peu, il est un peu piégeux. Voilà. Parce que, il y a une fameuse formule qui est celle de Jacques Delors, qui a été président de la Commission européenne entre 85 et 95, qui disait l'Europe, l'Union européenne, à l'époque la CE, est une fédération d'États-nations.
C'est une bonne synthèse.
Alors, pour le dire, d'une manière, un peu plus objectivée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des États-nations qui sont donc par définition souverains.
Ouais.
Voilà. Et ces États souverains, donc indépendants, autonomes, qui sont censés n'accepter aucune source de détermination et de pouvoir autre qu'eux-mêmes, ont décidé progressivement depuis 1950 et la SECA et 57, le traité de Rome, de mutualiser des parties de souveraineté. Ça veut dire d'exercer en commun des morceaux de souveraineté nationale, vous voyez, qu'ils exercent avec leurs voisins. C'est pour ça que le terme de fédéral me paraît, au bout d'un moment, pas forcément le plus adapté, parce que quand on pense État fédéral, on se dit tout de suite « Ah, donc en fait, il y a des délégations de souveraineté à un niveau supérieur, et donc on renoncerait au niveau inférieur à des à de la souveraineté.
Les deux peuvent aller de pair. Et vous, vous défendez le concept de Jacques Delors ? Vous trouvez qu'il est d'actualité concernant l'Europe, fédération d'États-nations ?
Oui, on peut l'employer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'Union européenne a ceci de très intéressant et finalement d'assez... d'assez inhabituel, finalement, d'assez même spécifique ou sui generis, que vous avez des pays souverains qui décident, dans certains domaines, c'est pas dans tous les domaines, mais dans des domaines de plus en plus nombreux, d'exercer ensemble et en commun cette souveraineté nationale, vous voyez ? Donc, le terme de fédération, à partir de là, me paraît pas forcément le plus parlant, parce que quand on pense fédération, on se dit, il y a donc des régions qui ne sont pas des nations à l'intérieur de l'internation. C'est-à-dire que l'Inde, l'Indonésie, le Canada, la Suisse, les États-Unis sont des États-nations.
C'est compliqué, évidemment, de comparer ces pays à l'Europe.
Voilà. Donc, en fait, là, il s'agit plutôt d'États-nations qui restent souverains, mais qui décident d'exercer ensemble, de mutualiser ensemble des morceaux de souveraineté. Ouais. Alors, on peut toujours dire que c'est un État fédéral, peu importe, vous voyez. Mais moi, c'est vrai que j'ai un peu pris l'habitude de laisser tomber le terme de fédéral ou de fédération pour justement éviter, si j'ose dire, de parasiter la réflexion. Ouais. C'est même pas seulement la réflexion, la description du régime politique européen par les États fédéraux existants et qu'on connaît déjà.
Un certain type de fédéralisme, on va dire, pour parler de l'Europe. David Kella, à quel niveau, selon vous, l'Europe est fédérale aujourd'hui ?
Ben justement, si je reprends la définition de M. Kahn, le fédéralisme européen, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, il est un peu inversé par rapport aux exemples des États-Unis et d'autres pays, puisque finalement le régalien, il reste à l'échelle des nations, des États, l'armée, la diplomatie, alors sauf la monnaie qui est aujourd'hui européanisée, mais ce que fait essentiellement l'Union européenne, c'est d'organiser le marché et d'harmoniser les règles du marché. Donc on a un niveau économique fédéral et un niveau régalien, en quelque sorte, qui est national. Et donc tout ça montre bien qu'en fait, ce n'est pas du tout du fédéralisme dont il est question ici, en fait. Moi, je partage cette vision. En fait, il s'agit plutôt de supranational, c'est-à-dire une délégation, effectivement, de souveraineté nationale à une échelle supérieure. Mais le paradoxe, c'est que cette échelle supérieure, elle n'est pas réellement entre les mains d'un peuple européen, puisqu'il n'existe pas vraiment de nation européenne, et puis surtout, il n'existe pas d'instance de débat au sein de l'Union européenne. Le Parlement européen, en réalité, il a très peu de pouvoir. Il peut co-légiférer avec la Commission européenne, mais surtout, il n'a pas le pouvoir d'initiative des lois, et puis il est contraint par tout un ensemble de règles qui sont prédéfinis, en fait. C'est-à-dire que dans le cadre de la délégation de souveraineté, en fait, les États sont entendus pour introduire des règles, hein, c'est-à-dire notamment des politiques commerciales, des politiques d'organisation du marché, les libéralisations, par exemple, de l'énergie et de l'électricité, hein, dont on a beaucoup parlé. Eh bien, tout ça, c'est créé par les traités européens. Et le Parlement européen ne peut pas revenir sur ces traités.
On va poser cette question, parce que la question se pose, est-ce qu'il faut plus de fédéralisme, et est-ce que pour parvenir à plus de fédéralisme en Europe, il faut revoir de fond en comble le fonctionnement de l'UE et donc revoir les traités. La question que je voudrais vous poser pour rebondir à ce que vous avez dit, est-ce que finalement plus que l'Europe doit-elle être plus fédérale, qui est la question qu'on pose ce soir, la question c'est est-ce que l'Europe doit être plus supranationale ?
Et voilà, c'est ça. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut le poser. Et le problème étant que la supranationalité s'oppose justement à la souveraineté. C'est-à-dire que la souveraineté, pour moi, elle est démocratique. Il faudrait qu'il y ait un peuple souverain qui débatte avec lui-même, en quelque sorte, pour savoir quel projet il veut faire. Or, c'est là que ça pêche. C'est-à-dire qu'en réalité, il n'y a pas réellement de démocratie qui peut s'épanouir à l'échelle européenne. Donc, tout ce qu'on va déléguer au niveau supranational, ça sera moins de démocratie pour les pays individuels. Pour moi, c'est ça le fond du problème. Et quand on pose la question en comparant les États-Unis, l'Inde, etc., d'autres pays fédéraux, en fait, on oublie que justement, dans ces pays, il y a un peuple souverain et que le niveau fédéral n'est pas contradictoire avec le niveau national, en quelque sorte, ou étatique des États fédérés. Alors qu'en Europe, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Georgina Wright, est-ce que vous partagez ce premier constat là, évoqué par David Kella, que davantage que la question du fédéralisme, la question du fédéralisme ne s'oppose pas, nous dit-il, concernant l'Union européenne, c'est la question de la supranationalité ?
Alors oui et non, dans le sens où effectivement, comme le disait très justement mes co-panélistes, en fait l'Union européenne c'est sui generis et c'est des États qui ont décidé qu'en fait ensemble mutualiser leur prise de décision et que prendre des décisions ensemble au niveau européen allait plus servir leurs intérêts que prendre des décisions au niveau national. Et c'est évidemment sous l'angle économique avant tout, mais ça devient de plus en plus sous l'angle politique quand on réfléchi aux 5 dernières années. On a vu l'Union européenne prendre des décisions en matière de défense, par exemple, donc mutualiser l'aide financière à l'Ukraine, même militaire, de l'aide militaire à l'Ukraine. On a aussi vu une politique de vaccination qui a permis en fait de vacciner la population de l'Union européenne au même moment contre la Covid. Donc en fait, ça va au-delà de la sphère économique. Je pense que supranationalisme tout seul est un peu trompeur parce que ça voudrait dire qu'il y a une instance à Bruxelles qui décide de tout et qui impose ses décisions aux gouvernements nationaux.
Vous préférez le mot fédéralisme ?
Non plus, non, je dirais, je préfère sans vouloir tomber dans une discussion de définition, mais en fait c'est un mélange de supranationalisme et intergouvernementalisme. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque décision qui est prise au niveau européen, il y a effectivement une commission, donc une administration qui propose un projet de loi, mais ce projet de loi doit ensuite être voté au sein du Parlement européen, qui est voté tous les 4 ans par les Européens. Et puis, il y a le Conseil qui regroupe les 27 gouvernements nationaux qui, eux aussi, doivent voter dessus. Donc, en fait, il y a une vraie participation des gouvernements nationaux qui ont décidé de faire partie de l'Union européenne. Et ce n'est pas une espèce d'instance à Bruxelles qui décide de tout et qui impose les décisions. Donc, je pense que oui, effectivement, le supranationalisme est plus, je pense, représente plus l'Union européenne que le mot fédéralisme, mais tout seul, il est aussi égal, enfin, il est trompeur parce qu'en fait, il sous-estime l'importance des États nationaux dans la prise de décision, des décisions européennes qui leur touchent au quotidien et qui touchent le quotidien des Européens.
Sylvain Kahn, je vais reprendre 2 exemples cités à l'instant par Georgina Wright, la crise du Covid, le plan de relance européen, l'aide à l'Ukraine. Ça nous montre finalement, puisqu'on parle de fédéralisme ce soir, que quand l'Union européenne, qu'on présente souvent comme divisée, les États-nations qui prennent le dessus, quand elle veut avancer ensemble, elle peut, elle y arrive.
Oui, oui, tout à fait.
Donc le niveau de fédéralisme est suffisant aujourd'hui ?
Oui, on peut le dire comme ça. On peut effectivement, si par niveau de fédéralisme, vous voulez dire le système politique et institutionnel, les institutions, oui, c'est-à-dire ce que je trouve très intéressant dans la période actuelle, donc 2020 à nos jours, les 2 chocs externes et la manière que vous venez de décrire, le Covid et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et la manière dont l'UE a réagi, c'est que on voit que c'est de la politique. Ça veut dire que s'il y a la volonté politique, s'il y a un choix qui est fait par les dirigeants européens, les dirigeants européens, qui, rappelons-le, ne sont pas là par hasard. Ils sont l'émanation de choix démocratiques, en tout cas de la démocratie représentative à l'œuvre dans chacun des États membres. Donc, à partir de là, on peut dire que c'est presque un suffrage universel indirect. Et comme le disait Georgina Wright, en effet, ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne ou le Conseil européen, où il y a les chefs d'État et de gouvernement, c'est des termes évidemment qui sont familiers à personne. Mais si au lieu de les appeler Conseil de l'Union européenne, on les appelait Parlement des États membres ou Parlement des États-nations, déjà, on comprendrait mieux. On se dirait, ah bah oui, tiens, c'est un peu comme une chambre haute ou comme le Sénat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un Parlement dans lequel il y a 27 élus, 27 représentants, si vous voulez. Donc, il y a une volonté politique. Quand il y a une volonté politique de l'ensemble de ces dirigeants qui procèdent dans chaque pays du suffrage universel, et que cette volonté politique, elle converge avec la volonté politique du Parlement européen, qui est un Parlement, lui, qui est élu directement au suffrage universel direct, eh bien oui, à ce moment-là, on peut dire, comme vous l'avez dit à l'instant, que le système institutionnel, tel qu'il existe, est un niveau de fédéralisme suffisant pour agir. Voilà. Ce qui a été démontré par l'action, la réaction et les politiques publiques mises en œuvre par l'Union européenne pour faire face à ces 2 chocs externes, c'est que, quand bien même, par exemple, il existe la possibilité pour un État membre d'opposer son droit de veto à une décision de politique étrangère, d'accord ? Eh bien, les Européens sont parvenus à chaque fois sur, par exemple, les sanctions à l'égard de la Russie ou à l'encontre de la Russie, à prendre des décisions à l'unanimité. Dès 4 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc oui, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le système politique institutionnel tel qu'il existe là, en lui-même, il a une souplesse, une agilité qui permet aux États membres, quand ils ont envie d'agir ensemble, de le faire, voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fédéralisation de l'Europe qui s'accélère ? Je pense à cette tribune qui a été publiée la semaine dernière dans Le Monde, de 50 personnalités, notamment Arnaud Montebourg, dans laquelle est évoquée une fédéralisation qui se prépare avec plusieurs décisions récentes, augmentation du budget de l'Union, abandon du vote à l'unanimité au Conseil de l'Union, remplacé progressivement par le vote à la majorité qualifiée. En même temps, j'ai envie de mettre ça au regard et en parallèle avec la montée des populismes qui promeuvent davantage d'États-nations, et notamment en vue des élections européennes.
Je dirais deux choses par rapport à ça. La première, c'est que si on regarde... Bon, ça, c'est le privilège de l'historien, puisque dans vos 3 invités, c'est moi l'historien. mais tout le monde peut faire de l'histoire, bien entendu. Mais quand on regarde les choses... parce que ça fait 3 générations quand même maintenant. Ça fait 75 ans que la construction européenne existe, puisque ça a commencé, disons, formellement en 1950, et en 1951 avec le traité de Paris qui institue la communauté européenne du charbon et de l'acier.
On est aujourd'hui.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que justement, on voit bien comment décennie après décennie, d'accord, les domaines d'action qui sont mutualisés par les États membres à l'échelle européenne, dans le cadre de l'Union européenne, ces domaines d'action sont sans cesse plus nombreux, vous voyez. Donc il y a bien, en ce sens, pour reprendre le mot que vous employez, une fédéralisation. On pourrait parler d'une européanisation. Mais encore une fois, ce n'est pas un processus qui est imposé par la planète Mars. D'accord ? C'est parce que, au fur et à mesure que les années passent, les dirigeants européens élus se rendent compte, c'est un choix qu'ils font. Il peut être justement débattu et contesté quelles que soient d'ailleurs les majorités gouvernementales dans les différents pays, on arrivera mieux à trouver des solutions à l'échelle de l'Europe que uniquement aux échelles nationales. Donc ça, c'est la réponse numéro 1 à votre question. Y a-t-il une fédéralisation ? Donc, deuxièmement, il y a en même temps une attractivité, une dynamique des partis illibéraux. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut noter que cette attractivité, elle est d'autant plus forte que la plupart des partis en question sont eurosceptiques, alors qu'avant, ils étaient europhobes. C'est-à-dire qu'ils ont sorti de leur programme, prenons le Rassemblement National, prenons la Ligue en Italie, prenons Fratelli d'Italia, ils ont sorti de leur programme la sortie de l'euro ou la sortie de l'UE, depuis le Brexit en fait. Donc ça veut dire qu'eux, en effet, ils prônent une Europe plus intergouvernementale, moins fédérale, si vous voulez, ou moins supranationale, mais pour autant, ils ne disent plus... L'Europe, c'est une source de problèmes, il faut en sortir, il faut arrêter. Donc on a un débat, finalement, entre une Europe où il y aurait davantage de pouvoir laissé aux souverainetés nationales et une Europe où il y aurait davantage de mise en commun de la souveraineté.
Ouais. Ça rejoint ces deux tableaux entre cette fédéralisation en cours évoquée et la montée des populismes. David, qui est là, cette fédéralisation en cours qu'on évoque déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'elle est en cours ? Je vous demandais d'être... Bref, parce que le temps tourne, on a encore beaucoup de choses à évoquer dans ce débat. Est-ce que cette fédéralisation, elle est davantage économique, vous qui êtes économiste, et qu'elle sert les intérêts économiques et les intérêts de l'Union européenne, ou est-ce qu'elle est politique, parce qu'il s'agit d'abord de répondre, politique j'entends géopolitique, de répondre aux chocs actuels mondiaux ?
De fait, oui, elle est d'abord économique, puisque ça a été rappelé tout à l'heure, le fondement de l'Union européenne, c'est la communauté du charbon et de l'acier, qui est quand même au départ une communauté économique, de collaboration économique. Mais moi, je voulais revenir un peu sur... par ailleurs, je suis l'un des co-signataires de la tribune que vous avez évoquée, qui demande un référendum sur la fédéralisation de l'Union européenne. Mais sur justement cette tribune, en fait, elle vise aussi à rappeler une chose, qui est que aujourd'hui, la capacité qu'on a d'agir, même à l'échelle fédérale, à l'échelle européenne, elle est quand même très limitée par le contenu des traités. Là, par exemple, sur la question de l'énergie et du marché européen de l'électricité, on oublie de dire que c'est les traités qui imposent la libéralisation du marché de l'électricité, et que si on voulait revenir à des monopoles nationaux, même si on le décidait collectivement à l'échelle européenne, on pourrait tout à fait avoir un Conseil européen et un Parlement européen qui, par exemple, pourrait voter pour revenir à des monopoles nationaux d'électricité, ça serait interdit, ça serait condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. Donc en fait, l'échelle fédérale est aussi une échelle de l'impuissance. Je veux dire que il y a tout un ensemble de principes économiques qui ont été ajoutés au traité, au fur et à mesure de l'évolution de l'Union européenne, et qui empêchent le Parlement européen, le Conseil européen et même la Commission européenne de prendre certaines décisions, même si elles étaient majoritairement acceptées. Donc le problème, c'est à mon avis moins la question de est-ce qu'on a du fédéralisme à l'échelle européenne ? Est-ce que c'est efficace ? C'est aussi un problème de qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, si on devait imiter ce que fait Biden aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act, qui est en fait une politique protectionniste et de subvention, eh bien ça, c'est contraire aux traités européens. Donc on ne peut pas le faire. Donc on est un peu démunis pour répondre au changement de la mondialisation d'aujourd'hui qui va plus vers plus de protectionnisme.
On va évoquer les institutions. Avant de passer à la deuxième partie du débat, Sylvain Kahn, je voudrais juste vous faire réagir justement à cette tribune, dont co-signée par David Kella, comme il nous l'a expliqué, dans laquelle il appelle à un référendum sur cette fédéralisation en cours, ce projet de fédéralisation en cours. Est-ce que vous êtes pour ?
Ça dépend des modalités, c'est-à-dire si c'est un référendum qui a lieu dans les 27 États membres le même jour, en même temps, c'est intéressant, et puis ça dépend bien entendu de la question posée. Mais pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, les traités, ils peuvent être modifiés, c'est-à-dire que les traités n'ont pas été imposés. Les traités, ils sont ce qu'ils sont. Parce que c'est le point d'équilibre entre des négociations entre États membres, entre gouvernements qui sont élus démocratiquement, par rapport à des objectifs qu'ils se sont fixés en commun pour résoudre ensemble des problèmes qu'ils ont voulu résoudre en commun. Donc, personne n'est coincé par les traités. Les traités, on peut les changer. Et en plus, la réponse des Européens au Covid a démontré que les traités, ça s'interprète, ça se tord dans différents sens. Il y a plein de choses qui ont été faites par les États membres avec, évidemment, l'aide de la Commission et en même temps parce que les États membres ont demandé à la Commission de le faire, qui n'étaient pas permises par les traités et qui ont été suspendues, comme par exemple la législation sur les aides d'État.
Alors, je voudrais avoir l'avis de Georgina Wright, qu'on a moins entendu, et je sais que David Kella n'est pas d'accord avec vous. J'espère qu'on pourrait lui donner la parole. La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, est-ce que l'Europe doit être plus fédérale ? Sylvain Kahn, David Kella, Georgina Wright, mes trois invités. Georgina Wright, est-ce que est-ce qu'il faut aller jusqu'à modifier les traités pour accélérer la fédéralisation en cours dans l'Union européenne, pour une Union européenne plus forte face notamment au choc géopolitique actuel ?
Écoutez, moi je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est effectivement ce que fait la tribune, c'est de poser la question, ce que fait l'Union européenne aujourd'hui, est-ce que c'est la bonne prise de décision ? Est-ce qu'en fait, on ne ferait pas mieux de prendre ces décisions au niveau national ? Alors, quand on regarde la rivalité géopolitique et aussi ce que fait la Chine et les États-Unis pour soutenir leurs industries, par exemple, on se rend compte que c'est plutôt pas mal de faire partie d'un marché qui est doté de 27 États membres. Il suffit de regarder un petit peu le Royaume-Uni et les débats qui ont lieu là pour l'instant. C'est beaucoup plus difficile de répondre et de faire face et de surmonter en fait ce problème de compétitivité qui s'impose au Royaume-Uni. Parce que les États-Unis et la Chine subventionnent massivement leurs industries, mettent beaucoup d'argent sur la table et attirent même l'industrie européenne. C'est beaucoup plus difficile d'y répondre quand on est seul, quand on fait partie d'un marché à 27. Mais il y a des questions, effectivement, sur le marché de l'électricité et autres, où on se dit, est-ce que ça a du sens que cette décision soit prise au niveau européen ou pas ? En revanche, la question des traités, pour moi, elle est secondaire. C'est-à-dire que oui, les traités mettent en place une série de règles hein, pour imposer que, ben, par exemple, pour s'assurer que le marché unique fonctionne bien, que tous les États respectent les mêmes règles, qu'il y a une politique de concurrence qui existe aujourd'hui et qui n'est probablement pas en mesure de répondre ouais. aux nouveaux défis.
D'un mot, est-ce que les traités bloquent finalement l'action de l'Union européenne ? Est-ce que les traités... Est-ce qu'il faut revoir les règles de... Je me permets d'accélérer en étant le plus concret possible. Est-ce que, notamment, il faut revoir les règles de l'unanimité, par exemple, des États membres ?
Ben, oui et non, je pense. En fait, on voit que ces cinq dernières années, il y a plein de décisions qui ont été prises, et je les ai évoquées un petit peu tout à l'heure, mais en matière de défense, mais aussi en politique vaccinale, qui, en fait, ne sont pas vraiment... quand on regarde le traité proprement dit, ben, ne le permettraient pas. Et pourtant, l'Union européenne, les 27 États membres, ont décidé de faire des choses au niveau européen qui vont au-delà des traités. Donc, je pense que, comme disait Simon Kahn, on peut interpréter les traités différemment. Mais effectivement, il y a des questions qui se posent sur comment on les modifie. Mais moi, je reste assez persuadée, et parce qu'on a vu ces cinq dernières années, que l'Union européenne peut changer son mode de fonctionnement si les 27 États membres se mettent d'accord. Et en fait, on n'est pas obligé de passer par une révision des traités.
Ouais, alors c'est toute la difficulté, David Kella. Comment mettre d'accord les 27 États membres, sachant que, on le rappelle, alors qu'aujourd'hui on célèbre les 20 ans de l'intégration de 10 nouveaux pays dans l'UE, il y a 9 États qui frappent à la porte de l'Union européenne. Est-ce que l'élargissement aussi dessert l'objectif de fédéralisme ?
Sur les traités, on peut toujours interpréter les traités, j'en suis d'accord, mais jusqu'à une certaine limite, sinon il n'y a plus de traité. Là, les États-Unis, ils ont un déficit public énorme qui explique en grande partie leur dynamisme économique. La France, elle va être sans doute mise sous procédure de déficit excessif après les élections européennes, parce que y a les traités interdisent en fait de mener la politique comme le fait les États-Unis, c'est-à-dire d'avoir du déficit budgétaire.
Dans les faits, cette interdiction n'est jamais respectée.
Qu'elle soit respectée ou non, il y a des procédures qui font que, par exemple, Bruno Le Maire, aujourd'hui, fait 10 milliards d'économies. C'est en grande partie lié à la crainte de voir justement une procédure de déficit excessif qui soit imposée à la France. Alors, bien sûr, la France ne paiera pas d'amende, ça on est d'accord, mais bon, on a quand même signé des traités et on a une trajectoire budgétaire qui est gérée à l'échelle européenne. Et même si on ne va pas subir une amende, on pourrait avoir, comme en Hongrie, par exemple, des subventions européennes qui pourraient être gelées tant qu'on ne rentre pas dans les clous. Donc non, les traités, ils s'imposent quand même aux États membres. Deuxième chose que je voulais dire, on a organisé le rapport entre national et européen, pour ne pas dire national et fédéral, parce que c'est évidemment le mot pose problème, selon le principe de subsidiarité en Europe. Subsidiarité, ça veut dire effectivement que la décision doit être prise à l'échelle la plus efficace pour organiser, la chose qu'on veut faire. Moi, ce qui me pose problème, c'est que cette subsidiarité, elle n'est pas toujours prise selon un principe démocratique, selon un principe de légitimité. Parfois, si une action peut-être moins efficace à l'échelle nationale, mais plus légitime pour les citoyens, ça devrait pouvoir être pris en compte. Or, en fait, on oublie un peu l'aspect démocratique et l'aspect légitime que peut avoir une décision lorsqu'elle est prise en Europe. Elle n'a pas toujours la même légitimité pour les gens que lorsqu'elle est prise à l'échelle nationale. Mmh. Et faudrait aussi réinterpréter ça, parce que l'émergence du populisme en Europe, qui quand même est assez large, c'est aussi un problème de déficience démocratique ressenti par les gens.
Il y a ce thème qu'on aurait pu avoir abordé si on avait plus de temps, de démocratie et fédéralisme. En tout cas, à vous écouter, oui, le fédéralisme, la fédéralisation en cours européenne fonctionne bien. L'Union européenne avance ensemble quand il le faut. Merci beaucoup à vous trois. David Kella, membre des économistes atterrés, économiste à l'Université d'Angers. Sylvain Kahn, merci. Professeur à Sciences Po, chercheur spécialiste de l'Europe au Centre d'Histoire de Sciences Po. Et merci à Georgina Wright, directrice adjointe des études internationales à l'Institut Montaigne. Merci à Florence Pons qui était à la préparation de ce débat comme chaque soir. Hélène Avril à la réalisation. Et coup d'œil à la pendule dans une minute. 15. Ce sera l'heure du journal de 20h avec Marion Cazeneuve et puis 10 minutes plus tard le décryptage, les ingérences russes dans les ex-républiques soviétiques. On parlera évidemment de la Géorgie où le projet de loi sur les agents de l'étranger a franchi aujourd'hui une nouvelle étape au Parlement. Juste après, ce sera Afrique Soir. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
De quoi allez-vous nous parler ce soir ?
Des célébrations de la fête du travail au Sénégal avec notamment le défilé des organisations syndicales et leurs revendications adressées au président Bassirou Diomaye Faye. Un premier test pour le nouveau chef de l'État. Notre dossier sera d'ailleurs consacré au rapport de l'OIT sur les conséquences du réchauffement climatique sur le monde du travail, notamment en Afrique.
Eh bien merci Zéphirin Quadio, on vous retrouve à 20h30, heure française, 18h30, en temps universel, dans 30 secondes un nouveau journal.